moi.
Tu lis quoi, toi?
Vous lisez quoi, vous?
Nous lisons quoi, nous?
L'ailleurs. Je peux m'en aller voir ailleurs, si j'y suis mieux qu'ici, parce qu'ici m'ennuie. Ici me sort par les yeux, et ailleurs m'appelle, avec une voix tellement plus, avec une voix tellement moins, dans une langue étrange, étrangère, étrangement belle. Alors je remplis ma valise de toutes mes affaires et choses, de tous mes secrets bonbons. Je plie mes souvenirs en 60 secondes, avant de jeter un œil sur ma chambre rangée comme jamais, où je ne dérangerai plus rien ni personne. Je ferme la porte au passé, comme un couvercle vertical. Maintenant, je ne suis plus ici, ni encore là, et déjà tout est venu. Je ne suis plus le même. Les arbres courent le long de mes vitres, les nuages ont des folles allures. Tout veut arriver vite. Je tremble comme le paysage, perdu au milieu de mes peurs. Je souris comme l'horizon sur le fil de mes cils. Je peux pleurer de tout ressentir. Joie, tristesse, peur. Toute la palette peinte au tableau de mon visage. Et la suite appartient aux rencontres, au chemin. Avec ma valise maisonnette, je peux m'en aller, d'ici, comme de moi-même. L'ailleurs, c'est un poème écrit par Sébastien Joagnès, publié aux éditions La Joie de lire dans le recueil « Jamais dire toujours », qui est un recueil de poèmes en prose sur le thème de l'adolescence. Moi, j'adore l'écriture de Sébastien Joagnès et je trouvais que c'était un très beau texte pour lancer cette émission « On lit quoi nous ?» La numéro 69, il n'y a rien de
non.
Connotation.
Non.
Je suis évidemment avec Madame Véro. Bonjour Véro.
Bonjour Monsieur Simon.
Vous allez bien?
Ça va bien.
Bon, je suis ravi de faire cette émission en tête à tête. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait l'émission
Mais nous sommes évidemment accompagnés
par Monsieur Philippe, qui est toujours notre technicien fidèle au poste. Voilà une émission où, comme d'habitude, nous allons parler de plein de belles choses. On présentera un salon qui va bientôt avoir lieu en Mayenne. On va parler évidemment de livres pour les tout-petits, de livres pour les plus grands, de romans ados, de bandes dessinées. Voilà, on va vous faire partager nos derniers coups de cœur du moment. Mais comme d'habitude, on commence toujours en musique avec une actualité locale. Et cette actualité, en fait, c'est le festival Un singe en été qui va pas tarder à avoir lieu à Mayenne bientôt. Ça sera le 28, 27 et 28 juin. Ou 28 et 29, genre je ne sais plus.
Bah, je n'ai point de calendrier.
Ça sera fin juin à Mayenne.
Voilà.
Et on va écouter d'abord Warhouse, qui est un projet solo moi, que j'aime beaucoup, de Martin De Voldere. Et c'est le chanteur du groupe Balthazar, en fait, qui est parti depuis 2016 dans un projet solo. Et ce projet, il a un côté très... très crooner, très pop, voilà, moi j'ai entendu du Nick Cave, du Leonard Cohen un peu en écoutant cet album. Ça va être un très très beau concert, ce sera le 28 juin à 22h et on va écouter Love is a Stranger de Warhouse.
Tomorrow is a night away. If love's looking down on all that we do, we're provocative, babe. Me and you. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far. Naive, how we're passing by. trying to look the entire world right in the eye. If angels decide what they let us be, 'cause we're provocative, babe, you and me. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can bend. We just want to know how far that it can bend. Yeah, it's so hard to persist. It's a beautiful mess, time after time. It's so hard to persist. It's a beautiful mess, time after time. Oh girl, you're so hard to persist. You're such a beautiful mess, time after time. Oh, so hard to possess. We're a beautiful mess, time after time. Now you sing it, girl.
Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can bend. We want to know how.
C'était Love is a Stranger de Warhouse. Ce sera un très très beau concert donc le samedi 28 juin pour le festival Un singe en été à Mayenne. Ça sera à 22h dans la cour du château comme d'habitude. C'est vraiment un super festival à taille humaine. Moi que j'aime beaucoup, donc si vous avez envie d'écouter de la bonne musique comme Warhouse, n'hésitez
de
pas à venir.
De façon très détendue.
Ouais, c'est ça, c'est chill.
C'est l'été, exactement. C'est le début de l'été.
Allez, parlons maintenant de livres jeunesse et avec, comme d'habitude, l'actualité de la littérature jeunesse. Avec ce mois-ci, eh bien, ça arrive dans quelques semaines, quelques jours, le salon Croque les mots marmots. Le salon Croque les mots marmots, vous le savez, c'est un salon dédié à la petite enfance qui a lieu à Mayenne. Décidément, c'est vraiment une actualité mayonnaise dans la ville de Mayenne. Et si vous vous intéressez à la littérature pour les tout-petits, à la petite enfance, eh bien, c'est le salon qu'il vous faut découvrir absolument où que vous soyez en France et à l'étranger. Venez à Mayenne, car c'est un festival vraiment génial qui s'est constitué avec les quatre communautés de communes du Nord Mayenne. Et la particularité de ce salon, c'est que c'est vraiment très coopératif. C'est-à-dire que chaque membre du secteur petit enfant, du secteur de la lecture publique, les librairies, mais plein d'autres personnes aussi se sont associés. Et chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice qu'est Croque les mots marmots. Donc il y a vraiment ce côté participatif qui est génial, ce qui fait qu'on trouve plein de choses. Donc c'est un salon où forcément il y aura des auteurs qui seront invités, mais il y a eu des rencontres scolaires évidemment, il y a eu des ateliers, il y a un travail fait dans les lieux de rencontre petite enfance, il y a évidemment un travail fait dans les écoles.
L'association du lycée aussi, avec la section
à Vinci, voilà, qui participe. Il y a plein de... On pourrait les énumérer, mais c'est assez génial.
Ça se croise partout.
Beaucoup de choses de l'ombre, hein, d'ailleurs, qui ne seront pas forcément visibles lors du salon. Mais ça fait qu'il y a une énergie et une ambiance de ce salon qui est assez géniale. Et puis une programmation un peu de folie, hein, puisque cette année, le parrain et la marraine seront Albertine et Germano Zullo, nos amis suisses. Ce couple absolument génial qui... je crois d'ailleurs que vous avez choisi un livre...
le dernier.
Dans votre vrac.
Le dernier, qui
voilà.
Est extraordinaire.
On en reparlera tout à l'heure. Mais aussi des personnes comme Elena Selena, Mathieu Maudet, Mélanie Ruten, Ilia Green, Hello, Anne Croza, Claire Garalon, Laurent Moreau, Elena Delvento,
oh là là.
Violette Weiss. Voilà, Je crois que si vous aimez la littérature jeunesse,
c'est francophone en plus, ça va dans tout.
Tout à fait. Ça, c'est... Il y a des Belges, il y a des Français, il y a des Suisses. Oui, effectivement, il y a même une jeune, Elena Selena, qui est d'origine de Lituanie, je crois, si je ne me trompe pas. Enfin voilà, c'est vraiment multiculturel.
Oui.
Et c'est 12 auteurs, mais par contre, c'est quand même, vous l'avez vu avec ces noms, ce sont que des auteurs vraiment géniaux. Et sur le salon, il y aura des lectures, il y aura des spectacles, des ateliers avec ces auteurs, évidemment des dédicaces, et puis plein d'autres choses à découvrir. Enfin, c'est vraiment un chouette moment. Donc, si vous avez, il y en a peu en France, des salons vraiment dédiés à la toute petite enfance, et celui-ci en fait partie. Donc, n'hésitez pas à venir le découvrir.
Les dates, on vous dit juste les dates.
C'est le 24 et 25 mai, donc voilà, ça arrive très très vite, à Mayenne, à la salle polyvalente de Mayenne, et au Grand Nord, qui est la médiathèque, où auront lieu les ateliers. Voilà. Eh bien, si on parle de petite enfance, je vous propose, Madame Véro, de nous présenter quelques ouvrages de petite enfance. Vos derniers coups de cœur, peut-être.
Oui. Oh, bah, j'en ai tellement, mais là, ceux-là, je les ai extirpés de mes coups de cœur, on va dire. Ça s'appelle Les Méchants, c'est Simon Granja et Nathalie Chou, et on est chez Sarbacane dans la belle collection de Sarba Bébé, qui est vraiment, je dirais qu'il y a une densité dans chaque livre qui est vraiment intéressante. Et là, c'est Les Méchants, c'est une sorte de rituel avec des incantations pour qu'un petit garçon fait pour aller se coucher, pour conjurer le sort de terrible de la nuit, de la peur de la nuit. Donc ça donne les méchants, je les crasse-pieds, je les croque-nez, je les casse-oreille et je les jette à la poubelle. Les méchants, je les emmurbave, je les imbousplatche, je les claque-mots, je les rouge-pinceau, je les serre-genoux, je les complètement fous, je les ridicule, je les minuscule, je les piou-piou, je les glou-glou, puis je les courou-coucou-cou. Et à ce moment-là, des méchants, il n'en reste plus vraiment. La place est nette, je peux me glisser sous la couette. Voilà, là, vous n'avez que le texte. J'essaye de mettre de la couleur dans ma voix, mais chaque double page de ce petit cartonné, enfin, il n'est pas si petit que ça, c'est un beau cartonné, assez... Enfin, c'est un peu plus grand, quoi, voilà. Chaque double page présente un univers, à chaque fois, qui va rebondir sur les mots inventés par ce petit garçon et qui régale vraiment. À chaque fois, on a une espèce de shoot de lumière, de shoot de couleurs différents qui nous fait rentrer dans son univers complètement fou, mais qui nous appartient aussi parce qu'on a tous peur, voilà. Et la peur est représentée de façon presque joyeuse et presque foisonnante, comme ça. Et il arrive à la calmer et à aller se coucher.
Et ça fait partie des albums qui existaient déjà dans le format classique de l'album et qui reviennent dans la collection Sarba Bébé en cartonné. C'est des albums qui ont pu être oubliés, en fait.
Et c'est pour ça que j'étais un peu perdue sur le format petit cartonné.
Ça fait un grand cartonné.
Ouais, voilà, c'est ça. J'ai dû le rencontrer une fois, mais je n'avais pas vu l'intérieur.
Et c'est un super album, et ça montre aussi tout le talent de Nathalie Chou, et qui est différent du travail qu'elle fait.
Oui, complètement, ouais.
Peut-être
on connaît un petit peu, mais c'est pas...
On la connaît dans un travail chez Nathan, notamment plus classique.
Ouais.
Et là, c'est vraiment... plus proche de son travail personnel, en fait.
Ah, c'est extraordinaire.
Et c'est vrai que le texte de Simon Granja est assez jouissif.
Ah oui,
à lire à voix haute.
Complètement. Bah, c'est un peu une émission où on va jouer avec les mots, là.
Vous en avez un deuxième, j'ai l'impression.
Alors, j'ai Petite Lune, chez La Pastèque, d'Emmanuel Le Walker. Et très séduite aussi. Alors, on l'a mis en petite enfance, mais ça concerne tout le monde, comme beaucoup d'albums très bien faits en petite enfance vont concerner tous les âges. Et on va suivre les phases de la lune avec toujours une pleine page droite, le texte à gauche, une pleine page droite d'illustration où la lune, évidemment, est présente, mais sous toutes ses formes. C'est incroyable. Je crois que c'est le premier livre qui me fait prendre conscience de comment elle peut changer, la lune, quoi. Comment c'est un mouvement permanent. C'est magnifique. Il y a une forme de philosophie dedans. Rien qu'en tournant les pages, on sait qu'on a vu cette lune-là un jour, et l'autre aussi, on l'a vue. Et voilà, donc on n'arrête pas. On découvre la lune. Il y a pas mal de pages. Hein. Il est assez dense aussi. Enfin, il y a ce livre comme un documentaire, un petit peu, d'une certaine façon, parce qu'on apprend. Ma maman, elle me l'avait appris. J'écoutais pas ma maman, évidemment. Mais ce livre, maintenant, ça y est, j'ai bien compris l'inverse. C'est-à-dire, c'est dès quand la lune forme un dé, c'est décroissant. Donc, Ça y est, j'ai oublié, il faut que je relise mon texte, j'ai pas révisé, mais c'est pas grave. Vous apprenez plein de choses, le texte est magnifique, le texte à gauche est vraiment très très beau, et même le jour...
On peut dire qu'il est à la fois poétique et documentaire.
Et documentaire, c'est quand même une sacrée gageure. Mmh. Et même le jour, parfois, si on observe bien, elle est encore là, toute légère, et c'est vrai que ça nous est arrivé, nous questionner en nous disant, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a pas voulu partir cette fois-ci. Voilà, c'est cette relation qu'on peut tous avoir personnellement avec la Lune, qui est amorcée ici, et je trouve que c'est un vrai régal, qui peut tout à fait réjouir les petits, parce que il paraît que c'était un de mes premiers mots en la montrant du doigt, comme le sage, j'essayais de regarder la Lune, moi à l'époque, les enfants regardent la Lune, ils ne regardent pas le doigt, c'est ça l'intérêt. Et donc voilà, un magnifique hommage à cet astre qui nous veille.
Et ça s'appelle donc
Petite Lune, Emmanuel Walker, on est de l'autre côté de l'Atlantique, chez la Pastèque.
Voilà. J'espère que ce sera la même lune quand même de l'autre côté de l'Atlantique, mais ça va.
Je pense.
Bon, tout va bien.
Ouais.
Moi aussi, j'ai un très beau coup de cœur, deux coups de cœur pour la petite enfance, qui sont à la fois des albums, mais aussi des documentaires. Alors, c'est le travail de Mylène Chapiron. Mylène Chapiron, on l'avait connue notamment avec son premier album qui s'appelait Le Loup, où elle racontait en fait d'une manière très claire l'histoire d'un inceste. Hein. Mm. Et c'est un album qui a marqué un peu les esprits à l'époque, puisque c'était un des premiers qui parlait de ce sujet-là, qui en parlait d'une manière très claire et très, très simple en même temps, et très dure. Suite à ça, elle a fondé une association qui s'appelle Mille Miettes, où elle permet de venir en aide à des enfants qui ont été victimes de l'inceste, notamment. Et puis, elle a continué son travail d'autrice, puisque Mylène Chapiron, c'est quelqu'un qui touche à tout. Hein, mmh. Elle est à la fois autrice, musicienne, chanteuse, actrice. Voilà. Elle fait partie du collectif aussi, comment s'appelle-t-il?
Je ne vais pas vous
aider. Ah, j'ai oublié.
Ah bah, ça reviendra. Voilà.
En tout cas, elle revient avec un nouvel album. Et cet album fait suite à un premier qui était très très beau aussi. Le premier s'appelait « C'est mon corps ». Et le deuxième qui vient d'arriver s'appelle « Interdit de me faire mal ». Donc dans « C'est mon corps », il y avait en gros une règle très simple qui était abordée. C'est un petit livre cartonné, hein, donc on est vraiment pour les tout-petits. Et dès le début, tout est dit. « Voici ton corps, il est à toi. Personne n'a le droit de te toucher si tu n'es pas d'accord. C'est toi le chef ou la chef de ton corps. » Et tout au long de cet album, en fait, elle va dérouler le fil justement de ton corps t'appartient et on n'a pas le droit d'y toucher. Mmh. Et il va y avoir tout le non à est-ce que ta sœur et ton frère ont le droit de toucher tes parties intimes ? Non. Voilà. Et en fait, les enfants doivent répondre tout le temps non.
Ouais, c'est ça, on peut et ça met dans une en sorte fait, de jeu.
Ouais, aussi, voilà. Et ça met des vraies règles en fait autour de non, ce n'est pas normal qu'on touche ton corps. Eh bien, elle a reproduit ce livre, enfin, elle continue son travail avec Interdit de me faire mal sur les violences. Voilà. Et ça commence comme ça. Ça, c'est toi. Tu as un corps, une tête et un cœur avec lequel tu peux ressentir plein de choses. Alors, il y a toujours son petit compagnon, c'est une espèce de petit poussin. Là. Il dit, et ça, c'est moi. Il y a une règle très simple. On n'a pas le droit de te faire mal. Personne n'a le droit, ni les enfants, ni les adultes, ni même les parents, c'est interdit. Et toi, tu n'as pas le droit de faire mal aux autres non plus, hein, logique. Voyons si tu as compris. Est-ce qu'on a le droit de te taper ? Non ! Véronique, il faut m'aider. Est-ce qu'on
non,
a le droit de te
pardon.
Taper ?
Non !
Eh oh, t'as fait mal ! Est-ce qu'on a le droit de te pincer ou de te griffer ?
Non !
Aïe, aïe, ouille ! Est-ce qu'on a le droit de te mordre ?
Non !
Bas les pattes, crocodile ! Est-ce qu'on a le droit de te pousser, de te tirer, de te bousculer ?
Non !
Je peux tomber en plus. Est-ce qu'on a le droit de te serrer trop fort comme un boa constrictor ?
Non !
Je ne peux plus respirer. Est-ce qu'on a le droit de te faire mal si c'est pour jouer à la bagarre ?
Non !
Ça fait pas rire d'avoir mal. Est-ce qu'on a le droit de te faire mal si on est très en colère ?
Non !
Mmh.
Non ! Non, non !
Est-ce qu'on a le droit de te frapper si tu as fait une grosse bêtise ?
Bah non, hein !
Bah non, on ne fait pas mal, on a dit, c'est interdit par la loi ! Et ainsi de suite comme ça. Et ce qui est super avec le travail de Mylène Chapiron, c'est qu'elle met vraiment à la hauteur des enfants et des tout-petits notamment, le moyen de s'exprimer et d'exprimer un nom.
Ouais.
Et elle le fait à la fois avec de l'humour, avec son petit personnage à côté des enfants qui sont présentés, le petit canard là, qui fait les phrases que je citais là. mais en même temps avec des vrais faits. Voilà, c'est interdit par la loi. Oui, on peut le dire à un enfant de 2-3 ans, c'est interdit par la loi. Alors, il ne sait pas forcément ce que ça veut dire, mais c'est important, ça met des
mots pour le dire.
Exactement. Et ces livres-là, ils sont essentiels pour ça, parce qu'ils mettent des mots justement sur des choses que peuvent vivre les enfants et qui ne sont pas normales. Et que ces livres vont réussir un peu à déconstruire ça. Et c'est tout l'intérêt de ce travail. Et je trouve ça bien qu'elle l'ait fait pour les plus petits.
Bien
aussi.
Sûr, ouais, tout à fait. Ça manquait quand même.
Ça manquait cruellement.
On n'en avait pas beaucoup.
Non, donc voilà, très beau travail de Malène Chapiron. C'est toujours publié chez La Martinière. C'est vraiment des petits livres cartonnés, hein, mais qui me semblent sont essentiels.
Complètement.
Voilà, bah, et on monte en âge, ça va être déjà l'album, et ça va être le...
Vrac de Véro qui est en train de chercher tous ses albums. Sur
on peut faire un petit générique. Le vrac de Véro, c'est pas Véro en vrac.
Vrac, non.
Non.
Non. Bon, non. Allez, hop, on prend les albums. Voilà, on commence par Mimi le Sumo de Nako Machida. On est chez le Cosmographe.
Ah, c'est trop bien, Mimi le Sumo.
Et
j'adore.
C'est trop bien, le Cosmographe. Oui, traduit du japonais par Alice Uro. Et Mimi le Sumo, il est craquant. Boulanger.
Ouais, il craquant.
C'est un boulanger craquant. C'est un boulanger, quand il pétrit sa pâte, elle dit qu'il patoune.
Ah oui, c'est pas chiant, absolument génial.
Il patoune, c'est génial, il patoune sa pâte. Et il est aussi passionné de sumo. Et il rêve de devenir sumori. Et il va faire les figures au fil des pages et au fil de sa fabrication de pain. Il va faire des figures de sumo accroupies. Enfin, moi, je sais pas trop les faire, les figures de sumo. Que
pourtant, je vous vois bien en sumo.
Le sport du sumo, personnellement, j'ai des bras, enfin, je me levais pas la nuit, hein, ça c'est sûr. Par contre, là, il est assez intrigant. Il est mis en scène, ce sport, je dis, de façon extraordinaire par le biais de ce chat qui est irrésistible, qui est une espèce de gros rondouillard adorable et un peu hein, comme un sumori, c'est ça. Et donc, il y a des clients qui viennent et tout, à la fois pour le voir faire le sumo et le voir manger, et venir manger son pain. Voilà, donc c'est vraiment adorable, c'est craquant. Comme cette littérature jeunesse japonaise, très très souvent je suis embarquée par la subtilité, la finesse, le petit détail qui fait que c'est terriblement humain.
Et il y a quelque chose un peu qui est fou, c'est que ce sont toujours des chats.
Bah, très souvent, très souvent.
Les auteurs japonais aiment beaucoup mettre en scène des chats.
Il faut dire que les chats sont pour moi... dans les plus grands acteurs du monde.
Ah bah là, en tout
ils
cas,
sont capables d'incarner des choses.
Mais ils les mettent vraiment dans des situations très humaines, en fait. C'est ça qui
exactement,
assez...
oui, on est dans la anthropomorphie absolue.
Et d'ailleurs, il y a un très bon manga, alors mince, j'ai oublié le titre là tout de suite, mais c'est où c'est tout un tas de chats, de félins qui montent un restaurant. C'est absolument génial.
Comme on avait les albums aussi avec les...
Oui, mais là, c'est vraiment en manga.
Ah, il monte un récent.
Ouais, c'est vraiment génial.
J'adorerais les manger chez des chats comme
voilà,
ça.
C'est ça. Enfin, quoi... Et il y a une humaine qui va être la première humaine à travailler avec eux. Et c'est vachement... Bon, je retrouve le nom, puis je vous le dis tout à l'heure.
Ok.
Continuons le vrac.
Les loups avec les loups de Luca Tortolini, Lair Salaberia. Lair, c'est son prénom, hein, je précise. On est chez Sarbacane. Et le petit loir, il est l'heure, il est le jour, il est le mois d'hibernation. Il est l'heure de dormir. Tout le monde est couché, tout le monde dort. Et lui, il n'a pas sommeil. Il ne veut pas hiberner et il veut rejoindre ceux qui sont dehors. Vous imaginez déjà comme c'est dur pour un enfant d'aller se coucher alors que bah, il fait encore jour, qu'on peut aller jouer. Alors, le petit loir, et ses parents ont un grand principe, c'est les loups avec les loups, les renards avec les renards, hein, et tout sera très bien gardé. Et ce loir, bon, au bout d'un moment, il laisse ses parents s'endormir, et il s'échappe, et il va les retrouver, les loups, les renards, les lapins, la chouette, enfin bon, ils vont devenir des vrais potes. Alors, c'est évidemment les enfants, les rejetons de ceux qui dorment. Et eux, cette génération va vous représenter une espèce de melting pot très, très réjouissant. Quand l'hibernation, par contre, va se terminer, ils auront un petit peu sommeil quand même.
Oui, c'est un peu fatigué.
Superbes illustrations.
Très belle couverture.
Vraiment magnifique illustration de Lair Salaberia. Alors, on passe avec Je déteste tout vraiment. Alors ça, c'est génial parce que vous savez, enfin, je pense que je ne suis pas complètement isolée dans le truc, mais j'aime bien détester des trucs de temps en temps.
Ah bah
j'aime
tiens.
Bien râler. J'aime bien dire, j'aime pas, comme ça.
Ah, c'est comme dans Pas prévu de Hello. C'est...
C'était pas prévu. J'aime pas ça.
Mais c'est un vrai plaisir. On s'en fout de quoi. Mais c'est un vrai plaisir.
Juste de râler.
Et là on a Sophie. Alors, je déteste tout. Vraiment, point d'interrogation. Sophie N. On est chez Saltimbanque. Et on a ces deux petits fantômes qui discutent. Et il y en a un qui déteste tout. Je déteste tout. Et son ami va le piéger jusqu'au bout. Ah ben, tu me détestes ? Ah non, je te déteste pas, mais je déteste tout le reste. Même les bonbons, te déguiser, les fleurs, les fraises, les gâteaux. Et là, le fantôme, au bout d'un moment, il est bon, voilà, il est à bout d'arguments. Il dit, ben non, finalement, j'ai oublié de ce que je déteste réellement, quoi. Donc voilà, c'est vraiment très drôle. Et derrière, il y a cette... Enfin, moi, je m'y suis reconnue. J'ai envie d'aller un petit peu engueuler le petit fantôme qui pose des questions, parce que j'ai envie d'exister par ma détestation aussi.
Ah ouais, et d'avoir... Vous êtes comme ça, vous.
Oui, je suis comme ça. J'assume. Bon. J'assume.
Alors, c'est pour tous les gens qui détestent tout, quoi.
Bah, qui aime détester.
Moi, je serais plutôt petit fantôme, toi.
Ouais, mais non, mais à un moment, après, ça va, quoi. Ouais. Bref, tout...
Je déteste tout, vraiment, de Sophie N. chez Saltimbanque.
Voilà, merci. Tous les bateaux ne prennent pas la mer. Germano Zulo, Albertine. Alors, on est à la joie de lire,
évidemment.
En Suisse. Et le texte est épistolaire. Ce sont des lettres échangées par un homme qui est incarcéré avec sa femme, avec ses deux enfants, enfin plutôt avec le plus jeune garçon. La grande fille n'a pas digéré du tout, absolument pas du tout, l'incarcération. Elle lui en veut énormément. Elle est dans une espèce de rejet total de son père. Et on va les suivre sur une vingtaine d'années au moins. De cet échange. Et il se trouve que ce papa, en prison, fabrique des bateaux en bois, tous différents, tous très beaux apparemment. Et son petit garçon les reçoit de façon émerveillée et les classe précieusement, les range précieusement, que la fille a détruit le premier, quoi, vraiment par rage, par colère. Donc c'est tout cet échange de courrier, d'un prisonnier avec sa famille, ces difficultés terribles qui viennent se greffer, cette femme qui va s'éloigner aussi, qui va aussi refaire sa vie, mais qui va garder le contact, et cette fin d'album qui est très belle, qui est comme la vie. Qui n'est pas surprenante non plus, mais et puis cet apaisement, ce soulagement aussi qui arrive, enfin, cet apaisement, ces tensions qui tombent, cette petite fille qui est devenue grande et qui a envie de rencontrer son père, tout simplement. C'est extrêmement beau, extrêmement délicat. Les textes sont magnifiques, les illustrations donc d'Albertine sont à l'image d'Albertine, ces couleurs toujours bien présentes malgré la prison. Il y a des couleurs partout lors des visites. Il y a le gris de la prison aussi, mais c'est très très beau. Des doubles pages sans texte, c'est magnifique.
Vous savez que s'ils sont les parrains et marraines de la prochaine édition de Croque les mots, c'est autour de la thématique du lien. Et là, je crois qu'on est...
Le lien, il est...
Voilà. Alors c'est un album, évidemment, qui
serait... Il est dans tous ses états.
Pour les plus grands, mais...
Oui.
Par la thématique, peut-être.
Oui, par la thématique. Oui et
mais
non.
Par la sensibilité,
il y a des enfants tout petits qui vont voir leurs parents en prison. Hein,
c'est trop beau.
Et c'est pas supposé.
Alors, c'est pas un album facile, mais c'est vraiment un album magnifique.
Alors, honnêtement, franchement, je vais pas dire qu'il est facile, c'est pas facile, mais il est lumineux. Et
je veux dire,
mettre de la lumière en prison, il faut quand même le faire.
C'est ça, mais dans ce sens, où quand je dis que c'est pas un album facile, c'est pas facile d'accès, c'est juste que le mettre dans les mains des familles n'est pas quelque chose d'aisé.
Tout à fait.
Vous êtes bibliothécaire, vous le savez.
Je le sais.
Et quand on dit, tiens, je vais vous donner un livre qui parle de la prison, c'est pas le livre qui
Mais moi, je vais pas leur donner comme ça.
Voilà,
je vais lire avec eux.
C'est pour ça que je dis que c'est plus difficile. Mais par contre, c'est un album qui est absolument génial. Et c'est vraiment des albums qui restent. En plus, quand on les lit, je pense que tous ceux qui l'ont lu l'ont encore en mémoire.
Complètement.
Et ça, c'est
complètement, parce que ce sont des relations et des liens. Là, il y a la prison, mais ça peut être valable sur d'autres situations.
Bah, l'isolement, la séparation.
La séparation, enfin voilà, c'est les rapports parents-enfants qui sont vraiment mis en lumière dans tous les sens du terme, et en couleur aussi. Donc on passe à quelque chose de
Donc,
bien.
Donc venez à Croque les mots rencontrer Germano Zulo et Albertine.
Oui.
Pour tous leurs autres albums aussi.
tous les mots n'existent pas.
Allez, on change de ton là.
Bah, complètement. De Michael Escoffier et Mathieu Maudet. les deux terribles, chez Frémousse, l'éditeur terrible. Tous les mots n'existent pas. Et donc, c'est une espèce de catalogue de mots qui n'existent pas. Voilà. Donc, c'est un vrai. Je l'ai choisi parce que c'est un vrai régal à lire à voix haute. C'est Gloubidou, il n'existe pas. Hein. Gloubidou n'existe pas parce qu'il n'y a rien sur Terre ou dans l'univers qui s'appelle Gloubidou. Hein, rien. T'imagines si c'était un objet, à quoi il pourrait bien ressembler. Voilà, donc il y a plein de propositions de graphiques qui pourraient ressembler. Il y a les gloubidous de bain, les gloubidous d'anniversaire. Oui, vous avez votre gloubidou?
Ah ben bien sûr, moi j'ai toujours un gloubidou sur moi. Hein.
C'est vrai?
Je ne pars jamais sans mon gloubidou.
D'accord, ok.
Mais
j'en ai pas moi, là, il va falloir que j'en trouve un.
Trouvez là, il y a la
proposition. Oui, on a le choix. Il y a une proposition. Et si, voilà, et attention, quand il y a une rencontre entre un gloubidou et un crastator, alors là... Si tous les mots n'existent pas, on peut en inventer plein finalement. Brouf, potoc, chicachic, mirepoux, tritondelle, blasibon, pitouille, tolototo, gnagnette. Voilà. Donc vous voyez bien le ton délirant permanent de
Michael Escoffier.
Voilà. Et le dessin bien délirant.
J'aimerais trop être une petite souris et me retrouver dans le moment où Mathieu Maudet découvre le texte de Michael Escoffier qui lui.
Qu'est-ce que
je vais faire encore avec ce texte? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait encore?
Alors là c'est aussi c'est un cahier d'activité. Hein, on peut inventer.
On peut dessiner
son propre gloubidou, son propre brouf,
son gnagnette.
Ouais, son gnagnette. Donc c'est vraiment... Et je me permets de faire une petite intrusion du fantôme qui voulait exister, François Blais, Iris Boudreau, au Seuil Jeunesse, parce que j'ai découvert cette histoire il n'y a pas très longtemps. Et je le mets en regard avec « Tous les mots n'existent pas », parce que le fantôme qui voulait exister, il habite un pays qui n'existe pas, où il y a toutes les choses qui n'existent pas.
Il faudrait demander à Michael Escoffier de l'inventer, quoi.
Il y a des mots qui n'existent pas dans ce pays qui n'existe pas, et il va tout faire pour essayer d'exister. C'est une vraie quête existentielle, cette histoire.
Évidemment.
Donc je n'ai pas pu m'empêcher de les associer.
Vous rappelez les références de ces deux livres?
Alors, les deux livres, « Tous les mots n'existent pas », Michael Escoffier, Mathieu Maudet.
Qui sera au salon, Croque-les-Mots.
Michael Escoffier est au salon.
Non,
Mathieu Maudet. Il est déjà venu au salon,
oui,
Mathieu Maudet.
Mais il revient.
Oh là là. Et puis, petite enfance, ça dépote. Frémousse.
Ben non, Michael Escoffier, il est parti vivre au Québec.
Ah, c'est pour...
C'est plus compliqué maintenant.
Non, mais c'est pour ça qu'il y a quelques livres qui passent aussi au travers.
Chez 400 coups.
Chez 400 coups, voilà. Le fantôme qui voulait exister, François Blais. Je l'ai vu passer, lui, quelque part. Iris Boudreau. Au Seuil Jeunesse. Voilà.
Il vous reste un livre dans votre
rack. Et un livre. J'allais dire doudou, un livre réconfortant, un livre d'illustration graphique de Ève Gomi. Dans la nature, on est chez Didier, et dans la nature, c'est évidemment beaucoup de poésie, mais c'est une espèce de classement des animaux, ceux qui sont une armée, ceux qui avancent seuls, donc un ours polaire, ceux qui sont une armée, les abeilles, ceux qui sont menaçants, ceux qui sont amusants, ceux qui habitent les profondeurs, ceux qui piquent, voilà. À chaque fois, une double page avec des illustrations stylisées, très très belles couleurs, des couleurs différentes à chaque fois, des couleurs de nuit, des couleurs de jour, des couleurs de soleil couchant, des couleurs de mer. Enfin, je voudrais lui demander les couleurs de la robe de peau d'âne à elle, parce que ça doit être complètement dingue. Et en plus, donc c'est un livre qui ouvre, un livre qui lit, qui relit aussi, parce que j'imagine le faire avec un enfant. J'ai plus trop d'enfants sous la main, mais je vais aller en kidnapper 2-3 là pour aller lire avec eux. Et parce que il y a plein d'autres animaux à deviner. Ceux qui vivent la nuit, il n'y a pas que la chouette.
Ben non.
Voilà, donc je trouve qu'il y a plein de possibles dans ce livre, il y a plein d'évasions possibles. Et les yeux sont tellement émerveillés, grand ouverts et à la fois apaisés, parce que ce sont des couleurs très douces, très très douces. Donc c'est une petite merveille, doux comme la couverture, je sais pas quelle... c'est magnifique.
C'est très beau.
Magnifique.
Merci, Madame Vérou. C'est un très beau vrac que vous nous offrez aujourd'hui. Moi aussi, j'ai quelques coups de cœur albums. J'en ai un notamment. On parlait tout à l'heure des ours mal léchés et de ceux qui avaient mauvais caractère.
Oui.
Je vous présente Le Gnome des Forêts. Il est pas mal dans cet album qui s'appelle Naomi et Le Gnome des Forêts. C'est un album de Myriam Daman et illustré par Amélie Vidello, publié chez Glénat. Et Naomi, c'est une petite jardinière, en fait, qui s'occupe de son jardin, un jardin secret dans une forêt enchantée. Et tout va bien pour elle jusqu'au jour où arrive un gnome. Alors un gnome qui a une sale tête, hein. Quand même, une tête noire. Déjà, il fronce un peu les sourcils, il a des grands sourcils comme ça, et on voit bien qu'il est très capricieux. Et Naomi, elle est très gentille, et donc elle va subir un petit peu toutes les demandes, un peu toutes plus ou moins
incongrues.
Ouais, de ce gnome qui est de plus en plus méchant, qui est vraiment pas sympa. Jusqu'au moment où Naomi va partir un peu à la recherche de réponses, en fait, et notamment elle va aller voir le grand hibou, et le grand hibou va lui dire, mais écoute, tu sais quoi, ton gnome là, peut-être que je suis pas sûr qu'en fait il soit vraiment 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 sain pour toi. Il y a quelque chose, en fait, je pense que tu n'arriveras jamais vraiment à le soigner de tous ces maux, hein. Ça c'est
il y a un truc à abandonner,
voilà. Et puis la petite Naomi a dit, bah oui, mais moi je fais tout de travers, comment je puis l'aider, voilà. Enfin, bah, elle est très vraiment très très gentille. Et le hibou lui dit ça: j'ai une question pour toi. Un jour, une jeune souris est venue me trouver car elle avait chez elle un grand feu. Mais elle avait beau lui donner du bois, matin, midi et soir, le feu dévorait tout et ce n'était jamais assez. À ton avis, était-ce la faute de la souris? Et la petite Naomi va repenser à tout cela et se dire, mais effectivement, est-ce que c'est moi la faute? Est-ce que tout ce qui arrive, c'est à cause de moi? Et c'est pas à cause de ce gnome. Et elle va prendre un petit pas de distance, de recul pour regarder ce gnome et comprendre que toute cette méchanceté, il la tient en lui. Et que finalement, en fait...
Et il tient Naomi aussi.
Voilà, c'est un très très beau conte.
C'est rare, cette thématique, finalement, de victime.
Ouais, et portée par l'illustration d'Amélie Vidello, qui est très très beau. Alors en plus, moi j'aime beaucoup l'écriture de Myriam Daman, hein. Elle avait déjà fait notamment Le Talisman du Loup chez Gallimard, qui est un très très beau conte. Voilà, donc ça fait un bel album. Et Amélie Vidello, on l'avait vu dans Le Doudou des Bois chez Sarbacane, ou plus récemment dans Bonjour Monsieur Bobine de Didier Jeunesse. Donc c'est un bel album de chez Glénat. Et il est déjà l'heure passe du générique coup de cœur, évidemment.
Oh yeah. Coup de cœur, 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 coup de cœur. Oh yeah.
Et le coup de cœur de ce mois-ci, ça s'appelle Le Croc en Mur. Le Croc en Mur, c'est le premier album de Michael Braarno. Oui, oui, Michael Braarno, vous savez,
oui.
Mémoire de la forêt.
Oui.
Voilà, ce grand succès des romans à l'école des loisirs, la série Les Mémoires de la forêt, les 4 tomes absolument géniaux. Michael Braarno vient d'écrire son premier album, et pour cela, il a demandé au génialissime Jérémy Payet d'illustrer. Jérémy Payet, moi j'aime beaucoup son travail également. Donc le tout est publié chez Kaléidoscope, et ça nous donne Le Croc en Mur. Au village des animaux, on célébrait les naissances et les mariages avec émotion. À ces occasions, on s'offrait des présents et des fleurs juste cueillies. Mais que se passait-il lorsqu'un habitant de la forêt disparaissait? On honorait sa mémoire, on vantait ses qualités, on regrettait sa compagnie. Puis venait le jour où il fallait ranger ses affaires. Qui pouvait s'en occuper? Le croc en mur, bien sûr. C'était même son métier. Après la disparition de la souris Valentine, ses voisins étaient très tristes et bien embêtés. Ils avaient gardé son phonographe et ses blouses fleuries, mais il restait tant de jolies choses à trier dans sa maison adorée. Alors les habitants du Grand Terrier prirent une décision, appeler le seul être capable d'accomplir la pénible mission. Dans toute la forêt, on chuchotait que la mort suivait le croc en mur, et qu'il ne fallait surtout pas l'approcher. C'est un blaireau de mauvais augure. Hors de question de lui parler. Quand il arrivait dans une maison, le croc en mur prenait soin de ne jamais tendre la patte. Il n'était pas impoli. L'animal était même assez courtois. Mais il savait ce qu'on disait de lui. Nous avons gardé quelques souvenirs de notre chère Valentine. Mais vous pouvez emporter le reste, lui dit le renard Timothée, en évitant de trop s'approcher. Sans un mot, le croc en mur commença son service. En refermant la porte, le goupil eut un drôle de frisson. « J'espère ne jamais recroiser ce videur de maison. » Caché sous le rebord de la fenêtre, un lapereau épiait le croque-en-mur. Il s'appelait Edgar et n'avait qu'une seule oreille, qu'il dissimulait sous une casquette bien enfoncée. Cela n'empêchait pas ses camarades de se moquer de lui ni de le mettre au défi. « T'es pas capable de monter dans sa carriole, l'oreille cassée ?»« Bien sûr que si, moi que je n'ai pas peur de l'approcher. » Si Edgar s'embusquait, ce n'était pas par manque de courage, mais on disait dans la cour de l'école que le croque-en-mur volait les museaux de ceux qui l'espionnaient. Et le lapro était bien trop prudent pour y vérifier cet adage. Sans se douter qu'on l'observait, le croque-en-mur débarrassa la vaisselle qui encombrait la cuisine de Valentine. Or, les saveurs avaient disparu des moules en cuivre, et seul le blaireau sentait encore l'odeur de la cannelle s'échappant du four. Il porta le doigt à son museau. Farine, beurre, sucre vanillé, et juste une pincée d'amour. À la fin de son intervention, le blaireau essoufflé posa ses pattes sur ses hanches. Il remarqua alors le portrait de Valentine qui semblait le remercier. À chaque fois, il avait la même sensation, bien que les maisons fussent vidées de leurs objets. Ceux qui les avaient habités n'en disparaissaient jamais tout à fait. À la nuit tombée, le croque-en-mur se mit en route, son haut de forme vissé sur la tête. Dans sa carriole, tiré à la seule force de ses épaules, tout brinque-ballait. Les fioles de parfum se cognaient contre les fauteuils éventrés, et de ce bric-à-brac gigantesque s'échappaient des manteaux rapiécés qui frottaient comme des drapeaux. « Regardez-moi cet attirail, pesta une oiselle. Ne comptez pas sur moi pour ramasser si quelque chose se fait la malle. »« N'ayez crainte, Madame Corbeau, pour vous ce n'est que du fourbi, mais pour moi ce sont des cadeaux. » Des cadeaux, le croque-en-mur n'en avait jamais reçu beaucoup. Alors qu'il n'était qu'un tout petit bébé, le blaireau avait été attiré par un dé à coudre qui brillait dans l'herbe. Il s'était éloigné de sa famille et ne l'avait jamais retrouvé. Mais l'animal était dégourdi. Après quelques mois passés dans les marais, il s'était construit au creux d'un être, un domaine, un château même. D'un filet de pêche jeté par une hermine, il avait fabriqué une toiture. Des dernières dépêches et des vieux magazines, il s'était fait des couvertures. Quand l'hiver avait revêtu la terre de sa poudre scintillante, son repère était terminé, et il dormait bien au chaud, ses trouvailles sur le ventre. Le croque-en-mur y vivait toujours, et au fil des années, il avait accumulé ses trésors dans un jardin où chacun pouvait se servir s'il en avait besoin. Car oui, au dépit des commérages, le croque-en-mur ne gardait presque rien des maisons qu'il croquait. « Chère Valentine, dites-moi, où est caché votre souvenir le plus précieux ?» demanda-t-il. « J'aurais bien une idée... Voyons, dans vos beaux souliers bleus ?» Un bruit dans la carriole l'interrompit. « Tiens, on dirait que nous avons un invité. »« Désolé, monsieur croque-en-mur, maman dit toujours que je suis trop curieux, » s'excusa l'indiscret en tremblotant. « Vous allez me chiper mon museau ?»« N'aie pas peur, mon petit, il ne va rien t'arriver, » le rassura le blaireau. « Prends donc ces souliers et entrons, nous allons trouver de quoi te réchauffer. » La tanière du croque-en-mur était beaucoup plus grande qu'il n'y paraissait. Autour d'eux, les bibelots occupaient des étagères qui grimpaient haut, très haut, jusqu'au plafond voûté. Son manteau retiré, le blaireau partit préparer deux tasses de chocolat chaud et une demi-douzaine de sablés pour son adorable invité. « Monsieur Croque-en-mur, vous ne gardez qu'un seul souvenir de chaque personne ?» demanda le lapro en soufflant sur son breuvage. « Il y en a tellement. À votre place, je ne saurais jamais lequel choisir. » « C'est très simple, Edgar. Vois-tu la drôle de poussière qui volait tout autour de ce souvenir ?» Tiens, c'était étrange. Edgar ne l'avait pas remarqué jusqu'à présent, mais maintenant que le blaireau le disait, il y avait comme des étincelles autour des souliers. « Depuis que je suis petit, continua le croque-en-mur, j'ai un don extraordinaire. Je peux voir l'amour qui a été déposé sur les objets, et d'un souffle, je peux le révéler. » « Mais vous ne vous sentez pas seul parfois, caché dans votre arbre ?» demanda Edgar. « Au village, personne n'ose vous approcher. »« Là où vient le croque-en-mur, la mort plane, » gronda le lapro en imitant un commerçant. « Là où il pose ses pattes, l'herbe sèche et les fleurs fanent. » »« N'aie crainte, et regarde autour de toi. Seul, je ne le suis jamais. Nous sommes forts de tous ceux qui ont vécu et de toutes celles qui nous ont précédés. » Sur le chemin du retour, le lapro prit la patte de son nouvel ami dans la sienne, et le cœur du croque-en-mur s'emplit d'une joie soudaine. « Nous arrivons près du village, Edgar. Tu es certain de ne pas vouloir me quitter ?»« Tout à fait certain, monsieur croque-en-mur, »
répondit l'autre en le serrant plus fort. C'est ce moment que j'aimerais vous offrir, à vous qui prenez soin de nos plus beaux souvenirs. Et l'album se finit sur un magnifique lever de soleil. C'était donc Le Croc en mur, écrit par Michael Brun-Arnaud, illustré par Jérémy Payet. Et pour toutes ces émotions, on a bien besoin d'un petit morceau. Donc on va écouter Coco Pelli avec Oiseau de malheur qui sera là le jeudi de,
ah oui, pour
du festival d'Saint-Jean
l'été. Et en été. En été. Ça vient du roman, hein. Attention.
Je fatigue à songer, et dans l'eau qui perle le long de mes joues, et dans l'air si doux qui calme mon pouls, je pense à toi dans mes bras. Tu ne connais pas cet émoi.
Lentement, je me vois te perdre, et les murs se taisent, et ta voix me laisse. J'ai ton corps au bord de mes lèvres. L'espace s'étend et me donne la fièvre quand j'ai le vertige. C'est souvent, c'est longtemps quand
de Coco Pelli. Ce morceau s'appelle Oiseau de malheur. Coco Pelli, c'est deux cousines, Carla et Julie, qui se sont rencontrées quand elles étaient toutes petites, forcément, et qui ont commencé à chanter pendant les fêtes de famille. Et évidemment, c'était une famille de musiciens. Et voilà ce que ça donne quelques années après. Donc, elles ont gagné les Inouïs du Printemps de Bourges en 2024. Et donc, ça sera l'occasion de découvrir leur univers onirique, qui est vraiment très, très beau. Voilà, un singe en été, le jeudi. On présente un petit peu de romans.
Oui, une sorte de petit vrac de roman, parce qu'on en a quatre. Enfin, moi, j'en ai quatre, là, pour l'instant.
Allez-y.
Ça monte en âge. Toujours un petit coup de phare sur la collection Moucheron à l'école des loisirs.
Ah
oui, énormément. Énormément, parce que c'est vraiment de la première lecture, mais d'une qualité. Moi, je prends. Je m'éclate à lire ça, quoi. Vraiment, je les lis tous. Et donc, nous avons Le Marronnier, une histoire vraie de Emmanuel Villain et Louise Maisel, qu'on va retrouver, d'ailleurs, j'ai pas fait exprès, dans le suivant.
C'est la même qui illustre, en fait, Louise Maisel illustre les deux livres que vous avez choisis.
Oui, c'est bizarre, ouais. L'école des loisirs, donc, chez la collection Moucheron. Donc, Le Marronnier, ben, c'est ce petit garçon qui a une manie, enfin, une passion, c'est ramasser tous les marrons qui tombent sous la main. Donc, dans sa maison, avec son papa, sa maman, il y a des marrons partout, jusqu'au jour où son papa glisse sur un marron. Là, on sent que sa mère, là, elle peut plus, là, elle a un ras-le-bol. Et là, il prend le marron sur lequel il a glissé, il s'est fait mal et tout, et il le jette dans le jardin. Voilà. Et il dit plus un marron à la maison. Voilà. Et c'est terrible pour ce petit garçon. Et qui, évidemment, l'histoire va bien finir, l'histoire s'étale sur le temps. Et elle est extrêmement bucolique, une belle ode à la nature, et c'est très, très beau. Voilà, une très, très belle histoire en renforçant ses compétences de lecteur, je trouve ça extraordinaire. Georgette et Lilette, troisième aventure de ces deux petites pépettes. Donc Lilette qui est un petit peu la cigale, un petit peu la cigale, et Georgette qui est un petit peu la fourmi, un petit peu acariâtre, un peu ronchon, très très organisée, très organisée. Lilette un peu moins. Donc c'est Le Chant des casseroles cette fois-ci, c'est Caroline Fontaine-Riquier. Chez Moucheron, chez l'école des loisirs, collection Moucheron. Et là, y a un pique-nique de prévu entre Georgette et Lilette. Et Lilette, elle doit amener un truc, elle ne se rappelle absolument pas. Mais alors, elle ne sait plus du tout qu'est-ce qui va se passer. Et sauf que, se dit, bon, ça se trouve, c'est un détail, ce n'est pas très grave, sauf que c'est très embêtant. Et vous le verrez en lisant Georgette et Lilette. Les deux personnages sont vraiment, vraiment vivants, incarnés, enfin, vraiment superbes.
Super.
Voilà. Cookie, vive la vie de Martine Lafont, illustrée par Louise Maisel, que nous retrouvons. Donc, avec, j'avais pas fait le lien avec Le Marronnier. Cookie, je vais le chercher parce que j'ai mis complètement foutraque, déjanté, absurde. Je faillis pas le présenter. Je présente bien les bouquins. Hein. Frôlant le gentiment débile. Hein. C'est vrai. Mais.
Tellement mignon.
Voilà, c'est irrésistible. Alors, juste le tout petit bémol, c'est que c'est... Alors, le délire de Cookie, on l'a, mais il n'y a pas de souffle, quoi. Il ne respire pas, le Cookie. Il ne s'arrête jamais. Et il se met à marcher. C'est un géotrouve tout. Il a plein d'inventions. Tout va l'inspirer. Ça m'appelle tellement plein de gens. Et tout va l'inspirer. Il est difficilement canalisable. Et à un moment, il voit une mouche voler. Il se dit, il faut que je trouve... avec un système de brosse et de mouche, un truc pour gratter les oreilles des girafes.
Ok.
Ouais.
On l'a dit que c'était un chien, quand même.
Non, j'ai pas dit. Bon.
On s'en fiche.
Ouais. Fait. D'accord. Et il va finir parce que évidemment ça évolue. Hop là, ça évolue. Son invention évolue, tout ça. Et il va finir lui-même dans un coup de girafe. Enfin bon, c'est du délire absolu, mais c'est réjouissant. On s'amuse énormément. Lecture à voix haute, ça peut être vraiment chouette.
Et comme vous êtes en parlant de chien et en parlant de la joie de lire, moi aussi je voulais juste interrompre votre vrac juste pour parler d'un livre, la réédition d'un livre à la joie de lire. C'est le même éditeur hein, qui a fait Cookie Vive la vie, mais sur une autre sensibilité. Ce livre s'appelle Hachiko, chien fidèle,
oui.
De Louise, oui. Pratt. Et là, il vient de ressortir. Il a été manquant quelques...
Oui, j'avais vu la première fois.
C'est... Et c'était un livre qui avait remporté d'ailleurs à l'époque le prix Sorcière.
Ah oui.
Qui était un livre magnifique. Ouais, c'est sorti en 2015.
L'histoire est vraie.
Oui, l'histoire est vraie. Et c'est l'histoire effectivement d'Hachiko, ce chien qui tous les jours attendait son maître à la gare en fait pour pouvoir...
qui rentrait du travail. Quoi.
Voilà, qui rentrait du travail. Et puis un jour, ce maître malheureusement disparaît. Et ce chien, tous les jours... Pendant plus de, je crois que c'est 8 ou 9 ans.
C'est énorme. Ouais.
Est venu, en fait, attendre son maître.
Jusqu'à sa mort.
Voilà. Ouais. D'ailleurs, une statue qui a été érigée de son vivant, en fait, voilà. Et c'est une histoire, mais d'une beauté, d'une tendresse, d'une... Voilà, qui vous prend au cœur.
Ouais, complètement.
Et je trouve ça rigolo que chez le même éditeur, on trouve Cookie complètement délirant, complètement foufou. Et Hachiko,
hyper hyper beau, hyper hyper doux.
Ouais.
Voilà, donc c'est deux livres de façon.
Voilà,
de
joie
voir.
De lire, quelle richesse, mais voilà. Quelle richesse. Et je finis juste par une collection qui vient de sortir, enfin qui vient de sortir, c'est pas vrai, non, n'importe quoi. Découvrez la mythologie, donc c'est la mythologie racontée par les monstres eux-mêmes. Et vous savez bien, Monsieur Simon, que je suis une fan dingue, je baigne dedans, ça, voilà. Et là, eh bien, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses, là je viens de lire, moi, l'hydre de Lerne, il faut quand même le faire, hein, mettre en scène l'hydre de Lerne, qui pour moi était un espèce de monstre terrible. Et on va s'attacher à ce monstre, trahi par Héra, en passant par les 12 travaux d'Hercule. Et c'est l'hydre de Lerne qui parle. Et c'est la sœur de Cerbère, le chien des enfers. Voilà. Donc on va aller voir tous ces. Enfin, toutes les choses reprennent leur place comme ça.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais vu ce point de vue. Quoi.
Pas du tout. Pas du tout. Et c'est d'une force. C'est absolument. En plus, c'est une ouverture sur la tolérance, sur un regard. Il y avait les monstres d'un côté, donc c'était les monstres. Bon, on s'occupait pas d'eux. Et là, on rentre dans autre chose, une autre porte sur la mythologie.
Et c'est Sylvie Bossier qui est à l'origine de cette collection.
Chez Scrinéo.
Chez Scrinéo, ouais, tout à fait. Et bien moi aussi, pour finir cette émission, j'ai deux coups de cœur en roman ado. Donc là, vraiment pour les plus grands. Le premier s'appelle Enragé de Cécile Alix. Vous savez, comme j'aime le travail de Cécile Alix, qui avait écrit notamment chez Slalom déjà Animal et puis Guerrière. Et bien elle continue son travail sur les enfants au cœur de situations compliquées et difficiles avec Enragé. Enragé, ça nous raconte l'histoire de Fauve. Fauve, elle a 16 ans. Elle vit chez Maud et Hervé. Maud et Hervé, ce sont un couple qui a décidé de se former comme une famille d'accueil. Et en fait, Maud et Hervé, c'est sa famille depuis maintenant une quinzaine d'années. Elle y est bien. Elle a retrouvé une stabilité. Il faut savoir que sa mère était... c'était compliqué pour le début de sa vie. Et elle n'a d'ailleurs quasiment plus de souvenirs de sa mère. Sauf que sa mère, Shana, et on est 15 ans plus tard, et elle a essayé de revenir un petit peu à la vie, voilà. Et vous savez que quand on est placé en tant qu'enfant par la ZE, tous les ans, il y a un renouvellement, en fait, de l'ordonnance de placement. Et cette ordonnance, elle va la plupart du temps de soi quand tout se passe bien, mais elle peut...
C'est toujours une épée de Damoclès.
Voilà. Et un jour, Fauve voit sa juge, en fait, changer. Et la nouvelle juge, Christine Buzard, considère que sa mère a réussi à retravailler sur elle-même et décide donc que sa mère doit reprendre Fauve. Sauf que Fauve, elle n'a pas du tout envie de parler, de la rencontrer, de la voir et tout ça. Et donc déjà, il y a ce rapport dans ce bouquin qui est raconté de la froideur administrative, quoi. C'est-à-dire que l'humain, il n'est pas considéré au centre de l'histoire, mais c'est... Voilà.
C'est des pions qu'on va replacer.
Exactement. Et Fauve, en fait, elle va pas supporter tout ça. Et donc, elle va décider de fuguer. Et toute la deuxième partie du roman, ça va être la colère de Fauve. Le titre Enragé est vraiment présent.
Qui s'appelle Fauve.
Voilà. elle va partir, en fait, s'enfuir sans trop savoir où aller. Elle va aller à Marseille, elle va se retrouver à Lyon. Elle va connaître la rue. Elle va rencontrer des gens formidables. Alors c'est ça qui est super généralement dans les bouquins de Cécile Alix, c'est que ce sont des ados qui vivent des situations critiques, ultra dures, difficiles, tout ce qu'on veut, mais qui rencontrent aussi des personnes qui vont les aider à sortir de cela. Et voilà, elle va vivre aussi dans un squat. Et la vision nous offre Cécile Alix du squat, c'est pas non plus celle de personnes désœuvrées, droguées,
c'est
et compagnie.
C'est une solidarité aussi.
Ouais, et puis c'est aussi un engagement politique, enfin, c'est plein de choses comme ça. Et petit à petit, elle va réussir à changer sa colère de bord et se reconstruire. Il y a la danse aussi qui est présente, puisque Fauve danse. Enfin, il y a plein d'éléments, comme toujours dans les livres de Cécile Alix. C'est foisonnant, en fait, d'humanité, ce roman. C'est un très, très beau livre, avec un bel espoir, voilà, en fin de roman. C'est vraiment un très chouette livre, et je trouve que dans le travail qu'elle fait autour de ses enfants, c'est de ses ados un peu en souffrance, mais qui ont une porte de sortie. Voilà, ça c'est un de ses plus beaux livres. Donc ça s'appelle Enragé, et toujours Cécile Alix chez Slalom. Et le deuxième roman ado dont je voulais vous parler, c'est le nouveau roman d'Anne-Lise Ortier, qu'on aime beaucoup aussi, qui a écrit le livre Entre les murs. C'est publié chez Casterman. Et là, elle revient sur une triste période historique qui se passe en Irlande. Vous en avez tous entendu parler. C'est l'histoire de ces fameux couvents de la Madeleine.
Ouais, sans Magdalena.
Voilà, qui ont été immortalisés par un film, Magdalene Sisters. Donc c'est l'un des plus grands scandales de l'Irlande du XXe siècle, où on va suivre l'histoire. Alors, ce qui est fort dans le roman d'Anne Lizortier, c'est qu'elle imbrique plein d'histoires à l'intérieur. On va avoir l'histoire de Deirdre, on va avoir l'histoire de Sinéad, des jeunes Irlandaises qui vont se retrouver donc enfermées dans les années 60, 80, en fait, dans ces pensionnats. Pourquoi ? Parce qu'une a été violée, une est tombée enceinte.
La chape catholique, la morale catholique,
c'est épouvantable. C'est ça. Donc c'est absolument prenant. Et elle mélange ça avec une histoire contemporaine où l'une de ces survivantes, en fait, de ces, j'allais dire des corps,
mais c'est vraiment des survivantes de parce couvents, qu'elles étaient en danger.
Voilà, va sauver une jeune fille et le garçon qu'il est, de ce qui aurait pu advenir aussi. Enfin, c'est très très beau la façon dont elle écrit tout cela, tout en étant vraiment touchant et un roman assez dur. Voilà, ça s'appelle Entre les murs et je vous conseille vraiment sa lecture. Et bien voilà, l'émission, ça, c'est déjà la fin de l'émission. Il nous reste 2 minutes pour parler d'une petite BD. J'ai eu un petit coup de cœur avec ce Betsy. Betsy, c'est une BD sortie chez Delcourt de Stephen Desberg et illustrée par Teresa Martinez. Si vous aimez les histoires assez douces, si vous aimez les animaux, eh bien vous allez adorer Betsy. Betsy, c'est une BD qui s'adresse plutôt pour les 8-10 ans. Et Betsy, c'est une petite fille qui découvre lors d'un accident qu'elle a eu cette capacité maintenant qui lui est apparue avec cet accident, elle peut parler aux animaux. Et ça change tout. Voilà, n'est-ce pas ? Et elle va devenir en fait leur allié. Puisqu'en fait, tous les chiens, par exemple, ce qu'ils bouffent, c'est dégueulasse. En fait, hein. Et puis on leur a jamais demandé leur avis. Et donc, pour la première fois, elle va demander en fait, mais vous voulez pas qu'on fasse ça ? Et petit à petit, comme ça, elle va rentrer en communication avec les animaux. C'est très doux, ça fait du bien. Voilà, donc ça s'appelle Betsy, publié chez Delcourt de Stephen Desberg et Teresa Martinez. Et là, voilà, c'est vraiment la fin.
Il faut
y aller. Évidemment, on va se quitter en musique avec une autre artiste, moi, que j'aime beaucoup, qui va être programmée le samedi 28 juin à Saint-Jean-d'Été, c'est This is the Kit. This is the Kit, en fait, on va voir, il y a un côté très folk, très doux, qui est entouré en plus de musiciens anglais qui sont vraiment géniaux. Donc, j'invite vraiment à aller découvrir This is the Kit sur scène. Voilà, ça sera le 28 juin à 20h15 à Mayenne. En attendant, moi, je vous souhaite une très très bonne de très bonnes lectures.
Oui.
Merci beaucoup Véro de nous avoir accompagnés encore. Merci Philippe pour la technique. On vous souhaite de très bonnes lectures, un très bon début, fin de printemps, début d'été. On espère que le soleil sera avec nous.
Ouais.
Voilà, allongez-vous sous le soleil, prenez un petit bouquin, ça sera parfait. On se quitte en musique avec This is the Kit et on vous dit évidemment au mois prochain.
And so the outside, it bashes us in, bashes us about a bit. Feel it tugging you, plowing you flat. Then feel it filling your sails and warm on your back. Up to our necks.